Peut-être cela les vit-il des tours dans la vie de tous les jours. En l'occurrence, cela s'avérera plutôt pratique pour cette interview. Carrie Mouche, bonsoir.
Salut.
Alors, tu as une riche carrière, on va le voir, en tant que chanteuse, en tant qu'actrice. Tu as une riche actualité, on en parlera en fin d'émission. Pourtant, avant tout ça, il me semble que tu as d'abord fait tes débuts en tant que costumière et danseuse. C'est bien ça ?
C'est presque ça.
Ah, ça commence mal.
Non, mais c'est bien, c'est bien. J'ai commencé par le stand-up en autodidacte.
Ok.
Et puis après, j'ai fait des études en tant que costumière et j'ai continué en tant que comédienne. Et après, j'ai dansé avec la compagnie Café.
D'accord. Donc justement...
c'était bien.
Bon, ok. je me rattrape. Et justement, oui, tu parles de stand-up, après on y reviendra, tu œuvres dans la chanson, dans le cinéma. Enfin, tout ça, c'est des métiers de la scène, des arts de la scène. Finalement, est-ce que tu as toujours, que ce soit la scène ou la musique, c'est toujours... fait partie de ta vie, ça a toujours pris une place plus ou moins grande, t'as toujours su que t'en ferais ton métier ou pas ?
Oh, ça c'est venu assez rapidement en fait, je viens d'une famille assez nombreuse et en fait ma mère s'occupait de mes grands-parents, donc du coup on habitait un peu sur le même, bon, carrément sur le même palier, pas qu'un petit peu d'ailleurs, et ma grand-mère était paralysée des jambes et donc du coup j'ai commencé à faire les shows pour ma grand-mère en fait.
Pour la divertir.
Exactement. Et puis voilà, et puis après j'ai toujours aspiré à ça, je dessinais beaucoup, d'où mon choix de faire des études de costume, et puis de lier tout ça. Je me suis toujours dit, plus petite, de me dire, oh, moi quand je serai grande, je ferai tout, les costumes, la lumière, les spectacles, voilà, je ne fais pas encore la lumière.
Ça viendra. Mais ouais, justement, c'est ça qui a... Alors, tout d'abord, c'est quand on parle de tu parlais de danse, de stand-up, et on parlait du travail de costumière. Ça, c'est aujourd'hui la musique est ton activité principale. C'est quelque chose qui ressemble, puisque tu as une identité très forte, même très colorée dans ta musique, que ce soit sur scène ou dans tes albums. Ça, c'est une identité que tu cultives justement
Je fais pas exprès, mais je pense qu'on cultive ce qu'on est, en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose de réfléchi, en fait, en tout cas. Mais j'aspire à toutes ces disciplines, que ce soit le costume, que ce soit le chant, que ce soit l'acting ou la comédie, peu importe. Pour moi, c'est des disciplines qui font qu'une, en fait.
Et justement, à quel moment tu parlais de ces différentes... activités et à quel moment finalement la musique a pris le pas ou un petit peu c'est ça qui véritablement dans quoi tu t'es lancé pour de bon au point d'en faire ton métier, de lancer des albums, comment c'est venu finalement?
Alors comment c'est venu? C'est venu drôlement en fait. C'est moi au début j'enregistrais des morceaux avec les gars de mon quartier.
Ok. Et donc, c'était en fait, quel quartier?
C'était à La Roche-Migène.
Ok.
5 minutes d'arrêt dans Lyon, juste à côté d'Auxerre.
Ouais, ok.
Et en fait, il y avait plein de gamins dans le quartier qui faisaient des prods en fait. Et puis moi, j'y allais de temps en temps, mais sauf que moi, je posais pas mes textes, je posais des textes de Jacques Brel, d'Edith Piaf.
C'était toutes les choses que tu avais écoutées.
Ouais, toutes les choses que j'avais écoutées, puis j'avais envie de tester. Puis il y avait un côté humour en fait, où je me disais, allez, je vais aller voir si
tu te prenais au jeu, quoi.
Ouais. Et souvent d'ailleurs, parce que je prenais ou des textes pas très connus.
Ouais.
Et donc, on me disait, mais c'est toi qui as écrit ça? Je disais, ouais, la grosse mytho.
Je disais, ouais, t'écris bien.
T'écris trop bien, oh là là, je te jure, je suis sûre que ça peut marcher. Et donc, voilà, et après, je me suis lancée là-dedans. Donc, moi, à côté, je faisais du théâtre depuis l'âge de 12 ans, dans mon quartier, MJC. Puis, j'ai continué. Puis, un jour, j'ai eu la chance... que ma tante me paye mes études en fait.
Okay.
Et donc c'était ma première productrice, on peut dire. Hein. C'est la première personne vraiment qui a vraiment cru en moi.
Bravo.
Même si ma mère croyait en moi, etc. Mais elle n'avait pas les moyens en tout cas de.
Ouais, bien sûr.
Et moi l'école de mes rêves c'était S-Mode.
Ouais.
Donc moi j'ai choisi le costume et tout. C'était S-Mode. Et puis en même temps à côté de ça j'avais vraiment envie de devenir comédienne.
Mmh.
Et puis ma tante m'a demandé de choisir entre les cours Florent et S-Mode. Donc, j'étais aux portes ouvertes des cours Florent. Je n'ai pas été emballée.
Okay.
Et puis, je me suis dit, bon, allez, vas-y, Karima, fais S-Mode. Et puis, tu continues de faire du théâtre, en fait, à côté. Et puis, à côté de ça, j'écrivais des chansons sur des instrus. Alors là, toute seule à la maison.
Ouais, ouais.
Dr. Dre, etc.
Okay, ouais. Tu prenais les instrumentaux.
Ouais, et puis, le petit kawa, par exemple, je l'ai écrit sur l'instru de Dr. Dre, en fait, à la base.
C'est pas mal.
Et puis, c'est vraiment une histoire. Je pourrais faire une série. Je pourrais même monter une plateforme, Bledflix.
Très bonne idée.
Et donc, j'ai une cousine qui louait des voitures. chez Ada.
Ouais,
ça,
ouais.
C'est Ada.
Ouais,
ça
ouais, tout à fait. Ouais.
Et il y avait un producteur de chansons, producteur de Nadia. Elle s'est partie pour le show, rien à voir. Mais
ouais, ouais, d'accord. Non, j'ai cherché des amis ennemis aussi. Elle avait fait
ah ouais, et comme un rock,
ouais,
je
voilà,
suis gonflé à bloc.
C'était il y a 20 ans.
C'est... Voilà, c'est ça.
Ok.
Et en fait, donc moi, je gardais en fait mes les instrus et puis mais c'était pour ma famille. Mon premier public, c'était vraiment ma famille. Et un jour, elle me dit, dis donc, tu sais, Karima, il y a un producteur qui vient louer des voitures. Je suis ah ouais et tout. Elle me dit ouais, vas-y, donne-moi un disque en fait, enfin
ouais,
une maquette quoi.
Un projet.
Et puis je dis ah bon, mais il produit qui? Bon, quand elle m'a fait le listing, bon, il y avait Nadia, Leslie, avec tout le respect. Avec tout le respect que j'ai pour elle, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais.
Bien sûr,
donc,
ouais.
Je me disais, ouais, c'est bizarre. Bon, c'est vrai que si ça avait été le producteur d'Erita Mitsuko, j'aurais été un peu plus stress, quoi, tu vois, la tension. Et donc, et là, elle lui a donné un disque et il l'a mis dans la voiture. Okay. Et il m'a appelé le soir même.
Waouh.
Donc, en me disant, rapide. Mais oui, voilà, je voudrais te rencontrer, nanana, nanana. Et puis voilà, et ça s'est fait comme ça. Et moi, pendant cette période-là, je tournais déjà en tant que danseuse avec la compagnie Cafig.
Ok.
Et voilà, et après, j'ai laissé les choses venir. Moi, je connaissais pas mal les théâtres, les cafés-théâtres de Lyon.
D'accord.
Donc, où j'ai beaucoup joué à l'époque. Et donc, ils sont devenus des amis. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un petit live et j'aimerais bien le roder.
Super.
Et donc, en fait, j'ai rodé ce truc-là. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, des tourneurs, producteurs, labels, etc. On a fait des tremplins. Et voilà. Et maintenant, je suis là avec toi.
Super. Bon, t'as sauté quelques étapes quand même, mais on y viendra. Donc, en fait, tu disais tu as pas mal tourné. Et c'est en 2010, il me semble, que tu as sorti ton premier album, Emballage d'origine.
Ouais.
Donc, finalement, avant ça, tu as beaucoup écumé, tu disais, comme tu le disais, les cafés-théâtres, les petites scènes. Tu t'es vraiment rodé. Et ensuite, au bout de quelques années, tu as sorti ce premier album-là. Pour toi, c'était quoi? C'était l'aboutissement? Tu étais contente de pouvoir... tu te disais que c'était aussi une nouvelle occasion de le défendre sur scène parce que tu t'apprécies surtout la scène? Comment ça s'est fait?
Franchement, je ne m'attendais pas à faire un album.
Ok.
Donc en fait, c'est ce producteur qui s'appelle Philippe Delmas.
Ok.
Grande gratitude parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Qui m'a dit, mais il faut faire un album. Sauf que moi, je tournais avec Cafig à côté. Je faisais autre chose. Et donc, je ne m'attendais pas à faire un album. J'ai fait un EP.
Okay.
Mais directement, j'ai voulu monter sur scène et monter mon live, en fait, modestement. Et puis, c'est une fois, en fait, que j'ai monté le live, en fait, je me suis dit, bon, ben, là où on a fait les tremplins, etc., on s'est dit, ah, mais ça plaît.
Okay.
Et c'est comme ça, en fait, que... Donc, c'est vrai que j'ai pas. Et ça a été longtemps pas un problème de légitimité, mais de me dire j'ai tellement d'amis, chanteurs, musiciens qui galèrent depuis 15 ans à répéter comme ça sur leur guitare. Je suis arrivée, j'avais l'impression de faire un braquage.
Oui, parce que justement, vu que tu avais commencé à tourner, tu commençais déjà à bénéficier d'une petite notoriété. Il y avait un bon bouche à oreille sur tes. C'est ça aussi, sur ce que tu faisais en live, et c'est ça qui t'a permis. Ensuite de sortir cet album?
Complètement. Ça m'a permis de rencontrer les Zebda, qui ont été producteurs exécutifs de mon album, qui m'ont beaucoup soutenue, que ce soit humainement, artistiquement, qui m'ont guidée. Mmh. Et d'ailleurs, toujours encore aujourd'hui, c'est vraiment mes frangins, quoi.
Super.
Et puis voilà, puis après avec ma sœur, parce que c'est une histoire de famille, moi on m'a dit, ah bon, mais t'as un manager? J'ai un manager.
C'est quoi ça?
C'est quoi en fait? Bah, c'est la personne la plus proche de l'artiste. Ah, t'en bouge pas, j'ai appelé ma sœur, qui avait fait un IUT commerce, et après qui a fait des concours pour être CPE.
Okay.
Donc c'est vraiment une super héros, je trouve, ma sœur, parce que c'est vrai que les CPE, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas faire leur métier en fait. Donc, il y avait une espèce de truc héroïque dans son truc. Et puis, c'est vraiment les concours pour être CPE, c'est monter l'Everest à cloche-pied, quoi, parce qu'ils sont très nombreux, mais elle était quand même assez bien placée. Et puis, je lui ai dit, bah, vas-y. Donc, à la fin du UT Commerce, elle vendrait des bigoudiens à un chien, en fait. Donc là, je suis sa sœur. Elle aimait le projet. On s'est dit, vas-y, viens, on part ensemble, deviens ma manageuse. Et elle est devenue ma...
Et c'est encore elle
C'est devenue ma bookeuse, parce que maintenant, du coup, elle est chez mes tourneurs.
D'accord.
Et elle manage mon beau-frère, qui était mon beatboxer, qui a chopé ma sœur pendant la tournée. Je vous dis pas, Bledflix, je suis sérieuse.
Effectivement, ouais. C'est vraiment une histoire de famille.
Ah ouais, c'est clair. Il faudrait une interview de 2 jours.
On va essayer d'aller droit au but. Et alors, donc justement, quand tu as sorti ce premier album, Emballage d'origine, c'était justement ce projet qui n'était pas uniquement live pour toi, c'était nouveau. Quel accueil a été réservé? Comment ça s'est passé à ce moment-là?
Au début, c'était vraiment dans les petits cafés-théâtres. Donc, il y avait les proches, il y avait quelques programmateurs curieux. Mmh. Après, c'est le bouche à oreille, en fait.
Ouais.
Et comme c'est petit, du coup, c'était vite
plein. C'est un petit milieu, quand même.
Voilà. Et ça a été super bien accueilli, vraiment. Et puis, il y avait ce truc de Karima. Alors ça, c'est vrai, parce que c'était vraiment présent, d'ailleurs. Ça, c'est d'ailleurs un sujet à sketch. Hein. C'est mon blaze,
ouais.
Karima. Habituellement, tu t'appelles Karima, Leïla, tu fais du R&B.
Ouais, parce qu'on me l'a sorti. Ou tu disais
ouais,
avant,
on me l'a sorti, on me l'a déjà sorti souvent. D'ailleurs, quand j'ai fait les premières parties d'IAM, je fais une petite aparté, et la première fois où j'ai joué avec eux, ils étaient là, ils ont vu le concert, mais moi, j'étais tellement émue. Franchement, j'ai chialé.
Bah ouais,
je suis sortie des loges, ils étaient tous là, Imhotep, Akhenaton et tout. Et ils sont venus, ils m'ont dit merci. Je dis, merci à vous. J'ai joué avec les hèches du rap. Les hèches, c'est... Donc, et là, il y a Akhenaton qui vient qui me dit, écoute, ça fait trop plaisir d'entendre une meuf du quartier qui s'appelle Karima et qui chante pas. Mais pourquoi tu m'as trompé?
Ah, quand Akhenaton dit ça, c'est pas mal.
Donc en fait, il y avait un espèce de truc où j'ai été aussi bercée par la chanson française, c'est-à-dire Edith Piaf, Réel, Léo Ferré, Jacques Brel, et à côté de ça, Missy Elliott, ouais. Eminem, Assassin, NTM, IAM, bien évidemment.
Mais justement, ouais, c'est Oxmo. Ça que j'allais te dire, c'est que en fait, ce qui est très aussi particulier dans ta musique, c'est que tu brasses un nombre vraiment vaste d'influences. Enfin, là, aujourd'hui, tu en as ton troisième album, mais c'est vrai que si on écoute les différents albums, enfin, à chaque fois, tu fais appel, enfin, je sais pas si tu te remets en question, mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, tu explores des sonorités différentes, et c'est ce que tu dis, en fait. Alors. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à écouter bien sûr ta musique, parce que c'est jamais aussi bien de l'écouter voir soi-même plutôt que d'en entendre parler. Mais il y a vraiment ce côté, justement, on sent une double influence de cette chanson française. Et même, tu parlais d'artistes comme Fréhel et Piaf, et on retrouve chez toi, j'espère que tu le prendras mal, ce côté gouailleur qu'il y a qu'on retrouve dans la chanson française. Alors, t'es pas parisienne, mais
c'est
le côté
souvent,
titi parisien.
Même gênée de lire des articles genre Carimouche, la fille, ça pourrait être la fille d'Edith Piaf. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti Edith Piaf, Missy Elliott et Audiard. Bon, une grosse partouze, quoi. Ça fait plaisir.
Ouais, vaut mieux être comparé
donc,
à ça qu'à d'autres
moins
talentueux, forcément.
Donc, je méritais pas tant, d'ailleurs. Mais en tout cas, toutes ces influences m'ont bercé grave.
Ouais, c'est ce que tu dis. En fait, toi, quand tu étais plus jeune, c'est ce que tu écoutais. Et finalement, au moment où tu t'es lancé toi-même dans la musique, de façon même inconsciente, toutes ces choses-là, ça a influencé ta musique. Donc... ce que tu fais, c'est pas le résultat conscient de ça, mais c'est vraiment quelque chose que tu fais au
ouais c'est
au
en
film,
moi
quoi.
C'est ça
ouais.
En fait, je veux dire, c'est aussi la France d'aujourd'hui. Moi, je suis charentaise berbère, je suis née à Angoulême, j'ai été élevée au Nessel-Réouen, Rimiti, et puis plein d'autres encore quoi. Loudès Matoub, Idir, et puis plein d'autres. Et donc c'était vraiment c'est vraiment un mélange, mais c'est pas étudié ou c'est vraiment naturel en fait. C'est je suis ça, je suis le mélange de tout ça. Et puis après mes albums, le premier entre autres, ce qui était important pour moi, c'était, je voyais pas ça comme un, alors bien sûr c'est un album musical, mais chaque morceau c'était une histoire.
Okay.
Donc je voyais vraiment les morceaux comme des petits courts métrages.
Okay,
quand tu prends un morceau comme Ragamuffin ou Firmin, rien à voir. Où Firmin respire vraiment, transpire la vieille chanson française,
tout à fait.
Mais où il y a de l'accordéon et du human beatbox. Mmh. Donc il y a quand même les sonorités assez modernes et street, on va dire. Et puis chaque morceau était un court-métrage.
C'est
donc,
une histoire que
je
tu
parle
racontes.
Trop, qui est un morceau plus funk.
Ouais.
Donc c'était vraiment ce qui faisait l'homogénéité, c'était ma voix. Mmh. Et puis j'ai acheté beaucoup, beaucoup d'albums dans ma vie. Okay. Et j'ai toujours, souvent, très souvent, écouté la 4 et la 7. Et tout le reste.
D'accord.
C'est la dilution de la 4 et la 7. Alors que moi, ce que je voulais faire, c'était qu'on prenne mon album et qu'on me dise oh non, moi j'aime pas celle-ci, mais celle-ci je l'aime bien.
Ouais.
Tu vois, que chacun y trouve son compte en fait.
Ouais.
Oups.
Mais en fait, dans... ouais, c'est-à-dire qu'un peu comme si chacun de tes albums fonctionnait comme une anthologie d'histoires,
ouais,
de petites histoires,
voilà,
de court-métrage ou de petites scènes, comme tu... C'est vraiment comme ça que tu les conçois.
Oui, et l'homogénéité, okay. C'est ma voix.
C'est ça le
fil rouge. Et c'est pas la musicalité.
Mmh. Ouais, en plus, tu as cette chance de pouvoir... Là, en plus, on est à la radio, c'est particulièrement adapté, mais tu as cette voix, justement, et ce ton qui est facilement reconnaissable. Donc, toi, ça te permet aussi est-ce que ça te permet de tenter des choses et de dire bah ça c'est pas quelque chose qui ressemble à mon style, mais on reconnaît ma voix, donc on reconnaît ma marque.
Franchement, j'ai pas envie de me mettre de frontières.
Ouais, okay.
Je veux dire, on n'est pas à l'abri que demain je fasse une country Shaoui. On est à l'abri de rien.
Ouais, trop bien.
En fait, j'ai juste pas envie de m'ennuyer, de pas me donner des barrières artistiques en fait.
Ça dépend. Chaque album aussi, c'est le. Alors, il y a ce côté vraiment où tu es marqué durablement par les choses que tu écoutais quand tu étais jeune, mais aussi chaque album est aussi le fruit de ce que tu écoutes en amont.
De ce que j'écoute, de ce que je vis aussi.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup d'humour quand même, surtout dans le premier. Mm. Surtout dans le premier. Le deuxième aussi. Le troisième, un peu moins.
Ok.
Donc là, j'ai eu envie de
Folie Berbère.
Ouais, Folie Berbère, il y a plus une homogénéité en fait, okay. Au niveau même musical. Mm. Voilà, ça j'avais envie de faire ça avec cet album-là, mais voilà.
Ouais, justement, ce qui est intéressant, c'est que on parlait de ton parcours où tu as commencé justement sur scène beaucoup avant de sortir ton premier album. Et d'ailleurs, c'est ça qui t'a. Tu as été mis sur la fin, tu as gagné en notoriété et justement aujourd'hui ça te permet de collaborer avec des artistes vraiment des grands artistes, je pense notamment on en parlait pendant qu'on préparait l'émission une artiste comme Flavia Coelho avec qui tu es sur le titre Princesse, ou moi quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui je trouve tu as enfin vos styles sont particulièrement complémentaires et compatibles, c'est Erwan,
ouais.
Forcément. Donc, c'est même pour toi, c'est intéressant de collaborer avec ces gens-là qui ont des influences différentes. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est une question de rencontre
Oui, c'est une question de rencontre. Et puis moi, j'écris ou quand je collabore avec des gens, c'est moche le mot collaborer.
Non cool, ouais, je sais pas.
Enfin, okay. Bon, quand je travaille avec des
quand
gens,
tu travailles, ouais.
Voilà, c'est des gens qui me connaissent extrêmement bien. Donc, dont Erwan, parce que Erwan, ça va faire presque 20 ans maintenant qu'on
quand
se connaît.
Quand il était avec Java à l'époque.
Oui.
Ouais.
Et moi, j'étais fan, en fait.
Ouais.
Et puis, la personne avec qui je faisais mon EP, elle le connaissait, c'était un super pote. Donc, Fixie, Erwan, ouais. Et tout, ils connaissaient tout ça. Et donc, je l'ai rencontré pour une oreille extérieure.
Super.
Et voilà. Et puis après, on s'est revus. Et puis après, on ne s'est plus jamais quittés, en fait. Donc, il a écrit... On a beaucoup coécrit. Mmh. Il m'a écrit aussi des chansons comme Démodé sur le deuxième, qui est un morceau sublime. Je me permets de dire qu'il est sublime parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
Tu fais bien.
Donc, avec Lionel Suarez, d'ailleurs, à l'accordéon, où c'est juste magnifique. En fait, le solo de Lionel est extraordinaire. Et puis, il y a Magie Tcherfi aussi.
De Zelda,
voilà, avec qui on a... On a aussi coécrit des morceaux. Oui, il m'a aussi écrit un morceau vraiment sur mesure qui s'appelle Qui c'est qui m'aime.
Okay.
Et puis aussi Jacques Chambon. D'accord. Voilà, c'est vraiment les trois personnes en fait avec qui je travaille. Après, on peut me proposer des textes, etc. J'ai du mal.
Okay.
Je préfère ou écrire toute seule ou avec des gens vraiment que je connais.
Par exemple, au-delà de ce dont tu parlais à l'instant, justement, le titre Princesse avec Flavia Coelho. Alors, c'est ce que tu me disais avant l'émission. La première version que tu avais enregistrée, c'était avec Flavia.
Flavia Coelho, qui est une grande amie et qui est une sœur, en fait. On se connaît pareil depuis les débuts. Et c'est pareil, en fait, elle a signé avec mon tourneur après moi.
Okay.
Et mon tourneur, il est venu me voir et il m'a dit « Attends, viens de signer avec une meuf. » Elle s'appelle Flavia Coelho. Et c'est sûr, vous allez vous kiffer. Eh ben, ça n'a pas loupé. On s'est kiffé, on ne s'est plus jamais quitté.
Ouais, et là, par exemple, en plus, le texte est très fort. On sent que c'est. Enfin, vous parlez de choses qui vous tiennent à cœur. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Vous écrivez, vous avez écrit chacune de votre côté, vous avez échangé, vous êtes parti justement d'un fil rouge, comme on partait avant.
Alors, moi, j'ai co-écrit même avec Erwan, ce morceau. Et ensuite, toutes les personnes que j'invitais. Donc, la première, c'était Flavia. Oui. Parce que donc, l'original, on va dire, c'est Flavia avec le clip. Et puis après, j'ai fait d'autres versions avec Nawel Ben Krayem, avec une version en arabe. Une version en anglais avec Awali. Et une version en japonais avec Maya Baru. Et moi, mon texte ne change pas. Mais elle était complètement libre d'écrire ce qu'elles veulent en fait sur leur couplet, ce qu'elles ont à dire sur le sujet. D'accord. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Okay. Et puis après, on s'est mis en studio, on a essayé des trucs avant. Tiens, vas-y, essaye plus comme ça. Après, c'était plus sur l'intention qu'on a travaillé. L'intention de l'énergie en fait du chant en fait.
Ouais, ou finalement du flow. Le fond et la forme, que ce soit exactement en lien.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Tu parlais de Erwan, lui, c'est quelque chose qui est assez manifeste aussi dans sa musique, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi. Et Princesse, entre autres, c'est un bon exemple. Tu joues beaucoup avec les mots, avec la langue française, avec les rimes. Et justement, ce que je me demandais, toi, dans ton processus créatif, est-ce que justement, c'est ces paroles-là qui sont souvent assez, assez fortes et souvent assez... construite, parce que c'est quand même des choses, tu joues beaucoup sur les figures de style. Est-ce que c'est les paroles qui te viennent d'abord ou c'est l'air de la chanson? Comment tu...
Alors là, c'était l'air.
Avec les gens avec ça, qui tu travailles,
en fait,
évidemment.
Ça dépend. Franchement, j'ai pas de règle. Ça veut dire que parfois, je vais avoir une mélodie, je peux même en marchant, comme un peu dans Dancing in the Dark. Tu vois, avec les bruits des machines d'usine, etc. Bah, ça peut être mes pas, ça peut être un cliquetis de je ne sais où, j'en sais rien, de la chaudière, une connerie comme ça. Et puis, je vais beaucoup m'enregistrer.
Okay.
Donc, ah, tiens, j'ai une petite mélodie, nanana. Après, je vais écouter des flows américains, je vais me dire, oh là là, ça déchire. Mais qu'est-ce que j'aimerais poser comme ça en français? Alors, du coup, tu testes en fait en permanence,
au
en train
de l'énergie, comme
de l'énergie, etc., à trouver le bon mot, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des flows comme les Américains en français qu'en anglais. Je veux dire, l'anglais, c'est très... c'est fait pour ce genre de flow. Bon, nous, c'est un peu...
En français, ça...
Français, s'il te plaît, on est compliqués, nous. Oh.
Ouais, c'est la construction de la langue. Et des
voilà, donc il faut...
Que...
Mais maintenant, il y a le verlan, il y a plein... Il y a
que tu utilises beaucoup, parce qu'on parlait
Le
langage de Titi Parisien, c'était déjà ça, c'était déjà l'argot.
Titi Parisien ou l'argot. L'argot, c'est pas que parisien, c'est vraiment...
Il y avait le mouchébem, des langages.
Donc, de jouer avec tout ça, et puis avec des mots aussi un peu rebeux, tu vois, c'est ce mélange, en fait. Qui fait qui je suis.
Donc c'est ça finalement. Ouais, tu n'as pas d'un morceau sur l'autre, t'as pas de. C'est vraiment à l'inspiration comme
là,
ça.
Là en ce moment, j'écris par exemple des nouveaux morceaux.
Ok.
Bon ben, j'ai par exemple. Alors le plus souvent, quand même, comme par exemple La promesse de Marianne ou d'autres titres, je vais chanter la basse.
Ok.
Je vais la transformer avec un espèce d'autotune.
Ouais, ouais.
Où en fait, du coup, tu as une grosse voix de bonhomme.
Tu pars de la ligne de basse.
Voilà, donc comme je suis autodidacte, je n'ai ni joué de basse, ni je suis plus rythmicienne, on va dire.
Ok.
Donc, je joue pas mal de percus, etc., et de machines à la maison, pas encore sur scène. Je n'ai pas encore le courage.
Mais tu es entourée de très
Mais j'arrive. Je n'ai que 25 ans. Et donc, voilà, donc je... Et là, je commence à écrire juste sur une ligne de basse.
Okay.
Donc là, du coup, tu es libre à chercher des nouvelles mélodies, des flows. Tu n'es pas enfermé. Tu as juste un petit cadre en fait, de basse. Et ça, c'est assez jouissif. Et puis après, une fois que j'ai un truc, ben là, par exemple, sur le troisième album qui a été réalisé par le grand Tom Fayer, on s'enfermait dans le studio, puis je dis putain, regarde, écoute ce morceau. J'avais écouté un morceau de je sais plus, c'était TLC ou je sais plus quoi, mais un vieux truc produit par Missy Elliott.
Okay.
Et il y avait une rythmique, mais juste la rythmique, sans la mélodie,
t'enlèves
etc.
Tout le reste,
c'était l'énergie de la rythmique.
Ouais.
Et là, j'ai dit à Camille, s'il te plaît, vas-y, là, faut qu'on fasse un truc. Pardon, je veux essayer de faire Princesse en fait sur une ligne rythmique comme ça, assez vénère, et voilà. Et puis après, au fur et à mesure, ah tiens, viens, on met une raïta, tiens, viens, on essaie de mettre un bendir, tiens, viens. Et là, on a vraiment fait un laboratoire en fait.
Oui, il y a beaucoup d'improvisation aussi que tu
De recherche.
En tout cas, tu testes jusqu'à ce que le truc te
et paraisse. Puis des fois, je peux avoir un morceau que je vais là en ce moment, mes nouveaux morceaux, je vais les tester sur des instrus rien à voir.
Ok.
Donc ça peut être un truc très lent, très trap, un truc un peu zouk.
Mais ce que tu disais, vu que tu t'interdis rien, finalement, tout est permis ou presque.
Ben ouais, sinon on s'ennuie, non.
C'est ça. Et donc là, justement, les morceaux dont tu parles, tu es en train de préparer ton quatrième album.
Alors, entre nous, je ne pense pas que je ferai de quatrième album.
D'accord.
Pour la simple raison, pour moi, faire des albums, à part si tu t'appelles Maître Gims, Aya Nakamura, Angèle et toute la clique, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est comme si on persistait à faire des cassettes. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, pour pas grand-chose, en fin de compte. Donc, et puis, je pense que l'ère du disque est un peu terminée.
D'accord.
Donc là, je suis plus dans une énergie à faire des vinyles, à faire... des titres, en fait, en digital,
okay.
Avec un clip, comme font les rappeurs, ouais. En fin de compte. Et puis, si un jour, il y a 1 million de vues sur un truc, alors là, peut-être que je ferai un autre album avec des bonus de ouf et tout. Mais là, bon, à voir, hein, peut-être que j'en ferai un quatrième.
Et justement, tu dis, effectivement, l'ère du disque, c'est des choses dont on parle de plus en plus. Et aujourd'hui, toi, forte de ces 3 albums, les liens que tu as avec ton public, avec ton audience, quels sont-ils ? Enfin, t'as une quand tu mets des choses en ligne, est-ce que tu as des retours ? Est-ce que
oui, énormément. Et d'ailleurs,
tu tournes beaucoup en concert aussi.
Alors oui, bon là depuis le Covid, ça s'est un petit peu calmé, forcément. Mais bon, j'ai eu de la chance, on va dire, parce que quand même ça a pas mal tourné. Mais il y a eu beaucoup de vide en fait. Donc déjà pendant le confinement, ça c'est sûr, ça a été le vide pour tout le monde. Mais il y a un espèce de truc qui a ralenti. Oui. Forcément, parce que comme le cinéma, tu as la queue avec toutes les programmations qui n'ont pas été programmées, donc du coup, tu en as qui sautent. Donc, il y a tout un truc. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. La vérité, c'est que plus tu as une grosse production derrière toi, et plus tu passes.
Évidemment. Ouais.
C'est une évidence. Donc, et moins tu as de budget. Moi, j'ai vraiment un petit label, par exemple. Donc, c'est vraiment différent. Donc, c'est un travail... plus laborieux, on va dire. Et en même temps, voilà, j'ai beaucoup de chance parce qu'on a eu la chance de tourner énormément. Sur le troisième, on est content, mais quand même, c'est pas ce que c'était. Et puis, à côté de ça, d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est important parce que ça m'a permis de faire d'autres créations costumes, de tourner dans des projets pour des films ou séries, etc. Donc, ça m'a permis de continuer de faire les métiers que je sais faire.
Super. Et justement, je te remercie car la transition est toute trouvée. J'allais y venir. Tu es également comédienne, donc on parlait de tes différents rôles. Tu avais un beau rôle de premier plan dans la mini-série Les Sauvages, très belle série de Canal+, qui avait été diffusée, il me semble, c'était peut-être un peu début 2020 justement, c'était peut-être un peu avant le confinement.
Oui, donc, c'était fin 2019.
Voilà, tout à fait. J'ai dit fin 2020, début.
Donc
oui, avec un gros casting puisque c'était il y avait Roche Dizem, Marina Foïs,
Fianso,
Fianso,
Lina Koudri, Souheila Yacoub, Farida Rawaj.
Que du très beau monde. Adapté d'un roman par Rebecca Zlotowski.
C'est un roman de Sabri Loata et réalisé par Rebecca Zlotowski, je t'en prie.
Tu as toute la fiche technique en tête. Donc, il y avait ce rôle-là et plusieurs films que tu as fait, y compris depuis sur les 2 dernières années, notamment le film À plein temps, dans lequel tu joues aux côtés de Laure Calamy et La vraie famille, donc avec de mémoire, c'était Mélanie Thierry. Et
Félix Moitié et Liès Salem.
Je cherchais son nom, merci. Donc justement, ça c'est pareil, comme tu disais, le cinéma et la télévision, c'est quelque chose dans lequel on te voit de plus en plus. Comment ça s'est fait ? Est-ce que alors que tu avais déjà fait du théâtre et du stand-up, pourquoi ne pas y être venu avant ou...
Alors parce que je peux pas tout faire déjà.
Tout simplement.
Bonne raison. C'est vrai. J'aimerais bien être Wonder Woman, mais non.
Les journées ne font que 24 heures.
Ouais, malheureusement. Non, mais en fait, ça a commencé avant. Sauf qu'en fait, je n'avais pas d'agent avant. En fait, c'est à la sortie de mon 2e album.
D'accord.
Il y a eu une série qui est sortie sur Arte, qui s'appelle Cannabis, qui a été réalisée par Lucie Borleteau.
Mm-hmm. C'est elle qui avait fait le film, il me semble, Chanson douce plus tard.
Exactement. Et L'Odyssée de Fidelio, où elle a eu, je crois, un César pour son premier long métrage.
Okay. Et oui, Chanson douce qui était adaptée du roman.
Exactement.
De Leïla Slimani.
Et c'est elle qui a réalisé le clip Princesse.
D'accord.
Et donc,
c'est quelqu'un que tu connaissais de...
Je l'ai connue en tant que réalisatrice sur Cannabis en 2015.
D'accord.
Et en fait, ils ont casté plusieurs filles pour le rôle. Donc, c'est la mairesse d'une banlieue. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé. Et un jour, ils sont tombés. Comme quoi, comme on dit le mektoub, comme on dit à Hollywood. C'est le destin. Et en fait, ils ont vu un article dans Nouvel Obs et ils se sont dit, je crois que c'est elle. Ils m'ont appelé. Donc, en plus, comme je n'ai pas d'agent, ils ont fait...
Ils
ont toqué à toutes les portes. Ils ont appelé mes tourneurs.
Comme quoi, tu n'as pas toujours besoin d'agent.
Tu vois, comme quoi. Là, ouais, c'est vrai. Bah, c'est moins galère pour eux quand même. Oui, parce que s'il faut faire Koh-Lanta pour trouver une comédienne, c'est
mais
un peu chaud.
Mais ils ont réussi, la preuve.
Ils ont réussi, hein, ils étaient motivés. Bon. Et donc, voilà, et j'y étais. Ils m'ont appelé... bon, déjà, le nom de la série me plaisait beaucoup, Cannabis. Je suis berbère quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc, j'y étais. Et donc, j'ai appris voilà, le texte d'essai, j'y étais. Et puis, une semaine plus tard, j'étais prise pour la série. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et surtout que moi, je suis arrivée, je leur dis, ah ouais, mais moi, attention, moi, je suis plus théâtre. On me filme pour des conneries. C'est sketch, mais j'ai jamais... Et voilà, donc c'était vraiment ma grande expérience.
Même en les ayant prévenus, ils
étaient... Bah écoute, apparemment...
Ça leur a plu.
Bah écoute, apparemment. Et je les remercie. C'était produit par Tony Marshall, paix à son âme. C'était une grande, grande dame. Et puis après, ça a continué. J'ai fait une autre série avant Les Sauvages qui s'appelle Les Impatientes avec Catherine Jacob sur des femmes en prison.
Ok.
Où je joue le rôle d'une grosse balance. D'ailleurs, tous mes cousins m'ont appelé, m'ont dit « Franchement, je ne te croyais pas comme ça. » J'ai dit « Mais c'est pour semblant. » Ouais, c'est ça. Donc, j'ai perdu quand même beaucoup de gens de ma famille après avoir tourné
cette série. Faut faire attention
au rôle qu'on accepte. Ouais, c'est clair.
Et pourtant, il y avait Cannabis pour contrebalancer. Donc
Oui, ils m'ont dit, bon, ça va, Cannabis, mais là, quand même. Oui, voilà, ouais, je me suis rattrapée avec Cannabis. Ah bah voilà. Non, puis voilà, et puis après, avec Les Sauvages, où du coup, après, ça a été assez vite, où où là, maintenant, j'ai un agent.
Et justement, pour toi, ça doit être intéressant, parce que tous les acteurs dont on parle, de leur donner la réplique, d'échanger avec eux, tu continues d'en apprendre énormément sur ce métier-là aussi, à leur côté.
Bien sûr, on apprend toujours, même toi.
Ah bah oui, hein, j'espère.
Bah ouais, on est là pour apprendre. Et puis chaque projet, avec des personnes différentes. Donc humainement, c'est encore une nouvelle aventure. Professionnellement, une nouvelle aventure. En fait, t'as que du nouveau. Et comme je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, d'où le choix de mon métier, c'est vrai qu'il y a un truc où on se renouvelle en fait sans cesse. Et c'est pour ça que je fais ça.
Ouais, et puis je pense qu'aussi ce qui relie les différents métiers dont on parlait, c'est le plaisir du jeu que tu peux décliner.
Complètement, le plaisir du jeu, l'impression d'avoir plusieurs vies.
Tu vois, c'est pas mal.
Il y a un truc comme ça, tu vois, j'ai toujours eu peur, ça c'était vraiment ma hantise quand j'étais petite, tu vois, de voir que ce soit ma mère, mon père, ou même aussi des gens autour, même les gens qui travaillent dans des bureaux en fait, parce que bon, mon père était dans le bâtiment, donc c'est quand même plus fatigant que le bureau.
Ouais.
Mais même rien que l'idée d'être dans un bureau et de voir les mêmes personnes pendant longtemps, ça m'angoissait.
Donc tu t'es dit...
J'ai fui.
t'as plutôt bien réussi. Et donc justement, on parlait des films que tu as, qui sont sortis actuellement, de tes projets musicaux, les projets sur lesquels tu es en ce moment et qui vont bientôt sortir, sans rien révéler de compromettant évidemment, desquels tu peux nous parler.
Alors déjà, il y a un film d'ailleurs qui a eu la caméra d'or et qui a été aussi sélectionné aux Oscars qui s'appelle Les Pires de Lisa Coca et Roman Gray. Donc il y a un film mais juste sublime.
Les Pires ?
Les Pires, ça s'appelle. Avec des enfants. On a tourné ça à Boulogne-sur-Mer.
D'accord.
Et c'est vraiment un focus sur les enfants, en fait, là-bas, les adolescents, avec une actrice géniale, Malouen. Et elles ont fait une série qui s'appelle Tu préfères sur Arte, que vraiment, vraiment, je vous encourage tous à aller voir parce que c'est hyper drôle. C'est des petits épisodes de 6 minutes avec des gamins de quartier sur un toit ou machin qui fument la chicha et qui parlent des choses de la vie. C'est extrêmement drôle. Il y a un film qui sortira, je pense, l'année prochaine qui s'appelle La Chambre des Merveilles. D'accord. Avec Alexandra Lamy et Muriel Robin.
Super.
Il y a le film de Salim Keshouch, qui n'est pas encore sorti en salle, mais on y croit, qui s'appelle L'Enfant du Paradis, avec Nora Arnezeder.
Il me semble que c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a eu
Les films dont tu parles, c'est des films où tu apparais exclusivement en tant qu'actrice ou tu contribues aussi à la BO?
Non, alors avec l'enfant du paradis de Salim Keshouch, là je joue sa sœur dans son long métrage, mais il a fait un court métrage qui est par contre sur, sur le site Canal+, qui s'appelle Nos Gènes, avec Sarah Forestier, et là où il a pris Apocalypse Now pour le générique.
D'accord, donc c'est comme ça que tu l'as rencontré finalement.
Je l'ai rencontré avant, on se connaît depuis quelques années en fait. Et puis voilà, et puis après il a découvert aussi mon dernier album, il m'a dit « Ah mais ce titre, ça serait bien », je lui ai dit « Bah vas-y
». Pas de soucis.
Et je crois que c'est…
Et tu me parlais aussi d'une série télévisée.
Oui, alors il y a une série aussi.
Dans laquelle tu auras un rôle important.
Alors il y a la série, donc c'est la série de Nawel Madani, qu'on vient de terminer en fait il n'y a pas si longtemps. Et qui sortira normalement au mois d'avril sur Netflix.
D'accord.
Voilà, qui s'appelle… Bendo, mais peut-être que le titre, changera. Oui, voilà. Bon. C'est souvent ça.
Et tu peux nous parler un petit peu de ton rôle ?
Alors là, je joue la sœur de Nawel.
Ouais.
Donc, il y a trois sœurs, avec aussi notre nièce, qui s'appelle Paola Locatelli. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je ne peux pas trop vous en parler, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui m'a plu dans le scénario, c'est qu'habituellement, sur les histoires de quartier, le focus est beaucoup mis sur les mecs.
Oui.
Et là, le focus est mis sur les femmes. En fait, en gros, c'est notre frère qui fait une connerie et c'est nous qui rattrapons le truc.
Ok.
Suspense.
Super.
J'espère que ça vous plaira.
Et la rencontre avec Nawel Madani, comment ça s'était fait ?
Alors, ça s'est fait pas comme d'habitude. Parce qu'habituellement, c'est ton agent en fait, qui t'envoie, ou il y a un casting, etc. Là, c'était un peu pareil que Cannabis. En fait, elle m'a contactée sur Instagram.
Ok, donc en direct.
En direct, voilà. Et elle avait déjà casté quelques comédiennes, des super comédiennes d'ailleurs. Et puis, voilà, on s'est rencontrés, j'ai été la voir... on a tchatché, on a fait quelques impros et voilà. Et voilà. Non, il y a eu tout de suite
une alchimie.
Il y a eu tout de suite une alchimie, c'est clair. Et puis
pour jouer des sœurs, c'est plus pratique.
Ouais, ça c'est clair, c'est hyper important. Et puis c'est une artiste qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Donc c'est le genre de surprise que tu as dans la vie. Merci Instagram.
Comme quoi.
Merci mon Dieu, merci Instagram.
Tu vois, tu disais c'est le Mektoub. Bah
c'est le Mektoub, Gram.
Pour ce qui est de tes projets.
Que je continue d'écrire et puis je.
Tu te laisses du temps pour toi.
Je me laisse du temps pour moi, pour écrire, pour d'autres projets aussi musicaux avec d'autres chanteuses que j'aimerais monter avec entre autres. Pas en prod, mais avec une aide artistique de Mousse.
De
Zebda.
Un des deux frères.
Voilà, avec le FGO.
Ok.
Donc ça, c'est vraiment que des discussions pour le moment, mais on est quand même hyper motivés pour faire ça.
C'est le cas de le dire. De collaborer, motivé, c'est quand même la moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
J'ai saisi la balle au bon.
C'était
trop beau pour
moi. Franchement, si tu ne l'avais pas chopé celle-là.
Je m'en serais voulu après, en rentrant chez moi.
Tu l'aurais refait, tu l'aurais monté.
Je pense que j'aurais édité au montage, tu as raison, juste pour me donner le bon rôle.
C'est pratique ça.
Et donc, ça c'est les projets sur lesquels
C'est les projets sur lesquels je suis. Et puis peut-être, là en ce moment, je me tâte, mais vraiment très fort, parce que ça fait longtemps que j'y pense, de reprendre un seul en scène.
Ok.
Voilà.
Donc plus du stand-up ou du one-woman show.
C'est pas du stand-up, ce sera vraiment du one-woman show.
Mais quelque chose d'assez autobiographique ou non, pas forcément, avec une composante musicale.
Si, en même temps, on peut dire on peut dire stand-up, parce que c'est complètement autobiographique.
Tu peux dire que c'est autobiographique et les gens n'iront pas forcément vérifier, c'est ça qui est bien aussi.
Ouais. Autobiographique mytho. Je vais en rajouter de fou. C'est autobiographique. Ouais. Mais surtout, ça peut aller de mon enfance, avec des choses sur le choc de culture. Après, il y en a beaucoup, il y a plein en fait, d'humoristes qui en parlent, comme Debbouze, entre autres, quand il s'est marié avec Mélissa Thuriot. Franchement, moi, mon mariage, c'était ça. Non, parce que je me suis mariée avec un Breton, je te laisse imaginer. Tu vois, c'était quand même assez folklore. Mais tout ça, et puis de parler aussi de la musique. Parce que aussi, quand tu es une femme et que tu fais de la musique, il y a quand même des choses intéressantes à raconter.
Bien sûr.
Parce que je vous ai raconté une petite, quand même, avec Princesse. Je ne citerai pas le nom, mais d'une radio d'ailleurs, okay. qui a appelé mon attaché de presse et puis qui a écouté Princesse. En fait, mmh. mais c'est génial, c'est de la bombe, nanan, super. Et puis mon attaché de presse dit, mais bah, c'est super, vous allez la playlister. Ouais, mais elle est un peu trop mature. Ça veut dire quoi ça? Explique-moi, s'il te plaît. On n'est pas la Fashion Week, là. Je fais de la musique. Si j'avais une grosse moustache, je te jure. Mais ils n'auraient pas dit. Donc, il y a une espèce de truc comme ça.
Ouais.
Quand tu es femme, il y a une espèce de truc de date de péremption. Et ça, ça m'irrite profondément. Mais comme j'espère encore avoir encore un peu sous le capot, je me dis que ça à défendre, en fait, avec humour sur scène.
Tout à fait. Mmh.
Et puis, ça n'empêche pas de faire de la musique aussi à côté, parce que de toute façon, ça ne m'empêche pas de jouer, de tourner et d'avoir un public.
Mmh.
Mais c'est la mentalité, en fait, du truc qui est vraiment encore là, quoi. C'est un truc de fou.
Ouais.
On est grave en retard. C'est un truc de fou. À quand une directrice d'une radio, d'ailleurs? Ici, c'est un homme, le directeur?
Oui.
Ah bah voilà.
Mais je pense que le bureau est assez...
féminin.
Oui, en tout cas, je pense qu'il y a...
Il y a un équilibre.
Oui, c'est à égalité.
Les payes aussi?
Il faudrait que je demande. Ah, j'ai pas eu la grille des salaires.
Tu moi, demanderas la prochaine
donc,
fois.
Moi, j'ai pas de paye du tout.
Ben voilà, tous bénévoles ou tout le monde bénévole.
Ça réglerait la question.
Voilà.
Non, en tout cas, oui, et d'autant que c'est ce que tu disais dans Princesse, en plus, c'est déjà finalement... ça rejoint le texte de Princesse, c'est-à-dire
mais c'est incroyable ça d'ailleurs,
ça
le gars il écoute
finalement,
Princesse,
c'est presque ironique, c'est que c'est
complètement
ironique. Princesse, le texte parle déjà du regard condescendant que peuvent avoir beaucoup d'hommes sur
et le gars il ose dire ouais mais elle est un peu mature, mais attends, mature de quoi?
Effectivement.
35 ans, c'est quoi?
Ton âge grandit depuis le début de la.
T'as vu, je vais finir à la fin de l'interview, genre 72 ans.
Cette interview est vraiment très très longue, comme tu le dirais. Comme tu le disais, il fallait bien deux jours. Alors justement, on a évoqué beaucoup tes nouveaux projets, puisque tu as beaucoup de choses prévues pour les mois à venir. Je vais te poser la question avec laquelle je termine chacune de mes interviews. Est-ce que tu peux nous faire la recommandation culturelle d'une œuvre qui te tient à cœur et que tu as envie de partager?
Alors, je peux en dire deux?
Allez.
Alors déjà,
exceptionnel.
Allez voir vraiment le court-métrage de Salim Keshouch sur Canal+, qui s'appelle Nos gènes.
Nos plus loin gènes.
Oui.
Ok.
Et vraiment, mon coup de cœur, c'est Maya Barou. Donc vraiment, je vous encourage à aller la voir parce que c'est une artiste merveilleuse, vraiment. Elle est flûtiste et chanteuse, franco-japonaise. Et voilà, c'est vraiment, elle chante en japonais, un peu en français. Et il y a un côté hyper moderne, hyper trad. J'adore sa sensibilité. Vraiment, pour moi, Maya Barou, c'est une artiste que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karimouche, pour toutes ces... pour nous avoir parlé de ta vie, de ta carrière, pour avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite le meilleur pour tous tes projets à venir.
Merci beaucoup, Rajita.